La première lecture de ce dimanche, chers frères et sœurs, est tirée du livre de la sagesse dont le lectionnaire, en toute générosité, n'a retenu que 4 versets. Mais cela ne fait rien. Ces 4 versets sont si denses qu'ils contiennent suffisamment de matière pour plusieurs homélies. Le passage que nous avons entendu est le début d'un bref récit des événements vécus par les Hébreux et les Égyptiens au cours d'une nuit célèbre relatée au chapitre 12 du livre d'Exode. Ce passage nous donne un résumé des grands événements qui ont eu lieu cette nuit-là, appelée la nuit de la délivrance pascale. Il raconte les événements comme le repas de la Pâque, les lamentations sur la perte des premiers-nés, l'événement de la perte des premiers-nés lui-même, etc. Les événements qui se sont déroulés lors de cette nuit de la délivrance nous montrent le contraste entre la sévérité de Dieu envers les Égyptiens et sa bonté envers les Israélites. La mort des premiers-nés des Égyptiens a eu lieu alors qu'Israël célébrait l'institution divine ou la loi divine de la Pâque. C'est juste avant le départ pour le voyage dans le désert que les enfants des Hébreux ont fêté la première Pâque. Nous connaissons l'histoire. Les Égyptiens avaient décrété que tous les premiers-nés des Hébreux de sexe masculin devaient être mis à mort. Pour échapper à ce sort, Moïse, un nouveau-né, est abandonné sur les eaux du Nil dans un panier et sauvé par la fille du Pharaon. Les Égyptiens commettent un grand crime et ce crime sera puni d'abord par la mort de leur premier-né au milieu de la nuit et par la destruction ultérieure dans la mer Rouge de ceux qui avaient été envoyés à la poursuite des Israélites. Le contraste entre les deux événements est saisissant. D'un côté, les premiers-nés des Égyptiens sont frappés, ce qui oblige le Pharaon à les laisser partir. Et il obtient ainsi la délivrance promise à leurs ancêtres. De l'autre côté, c'était en cette nuit même, cette nuit qui annonce le salut des justes et la ruine de leurs ennemis, que les Hébreux, les fidèles descendants des justes, célèbrent le repas pascal dans leur maison, dans leur tente, comme un sacrifice festif. En participant à ce repas sacrificiel, ils s'engagent tous à partager aussi bien le meilleur que le pire, les bénédictions et les dangers. Ils agissent ainsi comme un peuple consacré au Seigneur et chantent les louanges des pères. Les louanges des pères, ces hymnes originaux ont fini par former le Hallel, un groupe de psaumes récités la nuit de la Pâque et lors des grandes fêtes, des hymnes que Jésus récitera avec ses disciples lors de la dernière scène. Dans notre deuxième lecture, nous entendons un échantillon de ce que nous pouvons appeler un hymne en hommage de la foi des ancêtres. Cette année, du 19e au 22e dimanche du temps ordinaire, nous lisons 4 passages de la lettre aux Hébreux. C'est un chapitre, le chapitre 11, c'est un chapitre que nous pouvons intituler « La galerie de nos ancêtres dans la foi » ou « leur hall d'honneur » ou « Le temple de la renommée » de leur foi. Tout au début de ce chapitre, nous avons ce que nous pouvons appeler non pas une définition précise de la foi, mais plutôt une description de la substance de cette vertu. Substance qui signifie littéralement ce qui sous-tend, désigne ici la base même, le fondement même sur lequel se fonde l'espérance en l'avenir, la certitude des vérités surnaturelles et l'accomplissement des promesses faites par Dieu. La foi, nous raconte l'auteur de l'Épître aux Hébreux tout au début de ce chapitre, la foi est une assurance confiante concernant ce que nous espérons et une conviction concernant les choses que nous ne voyons pas. La foi ne peut être réduite à une simple conviction provenant de l'intérieur de l'homme. La foi est différente de la preuve ou d'une conviction purement et simplement humaine. La foi est un don de Dieu, grâce auquel nous pouvons dire « je crois », « credo ». La foi nous permet de dire « je crois » et non « je sais ». La foi donne aux croyants la certitude des promesses de Dieu et une vive espérance d'entrer un jour dans le véritable sanctuaire, dans le repos de Dieu, la terre promise, cette cité dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. La foi permet d'entrer déjà en possession de ce qui n'est pas encore possédé. Elle permet d'entrer en communion avec des réalités invisibles. En effet, dans la Bible, le verbe « connaître » ne signifie pas simplement une connaissance intellectuelle, mais une union, une communion au sens le plus fort du terme. C'est pourquoi Saint Jean écrit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Cette relation entre le croyant et les réalités futures, invisibles, n'est donc pas fondée sur des émotions subjectives, sur les humeurs du moment, sur des opinions, des suppositions ou des doutes, et sans aucune garantie réelle, extérieure et objective. Si l'on était ainsi, nous ne serions mieux que ces vagues de la mer que le vent agite et soulève, secouées et menées à la dérive par tous les courants d'idées. La foi a une garantie solide. Elle s'appuie sur la parole de Dieu qui fait ce qu'elle dit. Elle s'appuie sur la promesse de Dieu. Pour le dire dans un langage un peu plus technique, le motif formel, le fondement immédiat sur lequel la foi théologale repose, c'est l'autorité infinie de Dieu lui-même, la manifestation directe de ce qu'on appelle la vérité première. Saint Jean nous dit, celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui, le témoignage de Dieu lui-même en nous. Lorsque Dieu fait une révélation, qu'est-ce que nous devons faire? Lorsque Dieu fait une révélation, nous sommes obligés de lui rendre par la foi une pleine soumission de l'intellect et de la volonté. La foi est le début du salut de l'homme. La foi est le point de départ, elle est le fondement de toute relation avec Dieu. Elle est nécessairement le point de départ de l'espérance et la charité, ces deux vertus qui vont avec la foi. C'est pourquoi la foi est appelée la foi vivante, qui est inséparable de la vertu de l'espérance et de charité. Comme les enfants des Hébreux dans l'Ancien Testament, comme Abraham, nous sommes en marche vers la terre promise. Et la liturgie de ce dimanche nous rappelle que rien ne doit nous décourager sur ce chemin vers notre but ultime. Dieu est tout-puissant, il est notre rédempteur et il nous aime d'un amour éternel, d'une fidélité éternelle. Son amour pour nous est sans limite. Il est fidèle à ses promesses. Dieu de miséricorde. Fais naître en nous une foi profonde, d'où jaillira aussi une confiance profonde en ta fidélité envers nous. Aide-nous à nous tenir prêts, en train de veiller pour le jour, pour l'heure de ton arrivée, comme Abraham, ton serviteur, attendait la ville dont toi-même est le fondement, le bâtisseur et l'architecte.